Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à cette émission d'après-course dans le cadre du Grand Prix de Grande-Bretagne, disputé sur le toujours magnifique circuit de Silverstone. Une course qui a été remportée d'ailleurs par Max Verstappen, donc qui permet à Red Bull de signer une 11e victoire consécutive et du même coup permet à l'écurie d'égaler la marque établie par McLaren entre les Grands Prix du Brésil et de Belgique 88 avec une 11e victoire consécutive, le record absolu pour un constructeur en termes de victoires consécutives. Donc, le Grand Prix de Hongrie pourrait être le moment où Red Bull pourrait briser le record, que ce soit avec Max Verstappen ou Sergio Perez. En deuxième place, on a Lando Norris dans la McLaren qui fait une course exceptionnelle. Troisième, Lewis Hamilton. Et de ce fait, c'est la première fois depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 99 qu'on voit deux pilotes britanniques sur le même podium. David Coulthard et Eddie Irvine étaient montés sur le podium, lors de ce Grand Prix qui a été malheureusement marqué par l'accident de Michael Schumacher à Stowe qui malheureusement l'a tassé pour une bonne partie de la saison en raison d'une blessure à la jambe. En quatrième place et son meilleur résultat en Formule 1, Oscar Piastri dans la McLaren. Cinquième, George Russell. Sixième, Sergio Perez. Septième, Fernando Alonso. Huitième, Alex Albon. Les 9e et 10e, les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. On a perdu deux pilotes. Tout d'abord, Kevin Magnussen. Tout d'abord, Esteban Ocon et ensuite Kevin Magnussen. Donc, et Pierre Gasly qui a dû abandonner, mais a été classé vu qu'il a complété 90% de la course. Alors, comment avez-vous trouvé ce Grand Prix de Grande-Bretagne? Peut-être moins intéressant que les dernières années, mais toujours aussi intéressant. Moi, j'ai relativement aimé ça. C'est sûr que avant la présence de la voiture de sécurité en raison de l'abandon de Magnussen, c'était vraiment un jeu de gestion de pneus parce que Pirelli a amené les gommes les plus dures, la C1, la C2 et la C3, même si c'est sur un circuit qui nécessite beaucoup de charges au niveau des pneus, surtout avec Maggots, Beckett et Chappell et compagnie, des virages assez rapides. Mais quand même, on a eu, ça a été plutôt une course de gestion de pneus. Mais il y a eu quand même de belles batailles et des stratégies relativement intéressantes, entre autres. Mais ce Grand Prix a toujours une bonne vibe et il y a eu quoi? Je pense que c'était entre 450 et 480 000 personnes qui étaient présentes pour l'ensemble du week-end, 160 000 personnes. Et on entendait surtout la foule. On entendait surtout la foule lorsque Lando Norris a pris les commandes de l'épreuve au départ, ou bien quand Lewis Hamilton et George Russell ont fait des dépassements. Vraiment, j'adore ce Grand Prix. Il y a toujours une bonne vibe, excusez-moi le terme, qui tourne autour de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est un circuit c'est évidemment là où le championnat du monde de Formule 1 a commencé en 1950. Mais c'est un Grand Prix qui est souvent excitant. Même si ce n'est pas à la hauteur des attentes, par exemple, cette année. Mais ça a été quand même Max Verstappen qui a gagné et il n'a pas dominé la course du début jusqu'à la fin parce que, comme je l'ai mentionné, Norris a pris les commandes de l'épreuve jusqu'au 4e-5e tour à peu près parce que Verstappen a eu un mauvais départ, un temps de réaction de 3 centièmes plus lent que Verstappen. Que Norris, qui a été capable de passer devant lui et a même failli se retrouver derrière l'autre McLaren, celle d'Oscar Piastri. Entre-temps, il a été en mesure de bien gérer le reste. Il a dépassé avec le DRS. Il n'a jamais été inquiété par la suite, malgré peut-être certaines insatisfactions au niveau des pneus. Et surtout avec les pneus tendres usés qu'il a utilisés lorsqu'il s'est arrêté au puits pour passer lors de la voiture de sécurité. Mais néanmoins, je crois que Verstappen a encore été dominant. C'est une 7e victoire consécutive. Je crois que on peut dire la mort, les taxes. Et Max Verstappen qui gagne en 2023, parce que c'est pas mal ça. C'est quand même une très bonne performance, un peu moins dominante quand on regarde les écarts. Ça a été quand même bon. 3,7 secondes, c'est le plus petit écart de victoire depuis le Grand Prix d'Australie. Même si le Grand Prix d'Australie s'était terminé derrière la voiture de sécurité après tout ce chaos. Mais Red Bull a été quand même capable de bien gérer le tout malgré la bonne et très bonne performance de Max Verstappen. Je suis tombé, je pense, sur un tweet avant d'enregistrer l'épisode de Luke Smith, le journaliste à The Athletic pour la Formule 1, qui dit que avec une avance de 99 points, Verstappen peut maintenant terminer toutes les courses restantes avec une deuxième place et pourrait gagner le titre. Évidemment, je pense que, et même si Perez, qui est deuxième, gagne toutes les courses avec le meilleur temps et les sprints, il y en a un justement en Belgique à la fin du mois, et que Verstappen devait finir deuxième à chaque fois, Verstappen pourrait gagner le titre par 7 points. Donc, en principe, je pense que peut-être même d'ici, avant la fin des vacances, Verstappen pourrait même être sacré champion du monde en Belgique. Si tout va bien, que par exemple, Perez continue d'être éliminé avant la Q3. Donc, on ne sait jamais, mais Verstappen est sur une autre planète. Parlant de Perez, justement, le fait qu'il ait été éliminé en Q1 samedi n'a vraiment pas aidé. Et évidemment, ça a été encore une course de rattrapage. Fini sixième. Une course un peu plus tranquille, malgré un dépassement qui a, coûté un aileron avant à Nico Hülkenberg sur la Haas, mais ça a été une course plutôt tranquille de sa part. Et sérieusement, je crois que, s'il a la pression de mieux faire. Parce que je pense que Red Bull a un autre problème du nom de Nyck de Vries qui, même s'il finit 17e, n'a pas vraiment une bonne performance. Mais Perez doit impérativement mieux faire et espérer se rendre en Q3 pour le Grand Prix de Hongrie dans 2 semaines. Parce que là, ça va pas très bien. Et s'il doit faire ça à chaque semaine, tout le temps faire des courses de rattrapage alors qu'il a l'occasion de finir deuxième avec la meilleure voiture du plateau, ça regarde vraiment pas bien du côté des fans, parce qu'on dit est-ce qu'il a vraiment le niveau pour être un pilote Red Bull. Moi je pense qu'il a le niveau, il l'a montré à plusieurs occasions, est allé gagner des courses complètement mérité, surtout sur des circuits urbains, mais ces temps-ci, ça va tellement mal en qualification qu'il est obligé de faire des courses de rattrapage, et ça a été encore le cas à Silverstone. J'aimerais ça voir Sergio Perez avec un meilleur week-end que ça. Donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour du côté de Red Bull. Je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à dire autant des deux pilotes, mais vraiment, encore une fois, félicitations à Red Bull d'avoir égalé la marque de McLaren en 88. Maintenant, l'autre question qu'on va se demander, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir remporter tous les Grands Prix en 2023? En 2023, ça, c'est à suivre. Donc, on va passer maintenant à McLaren, qui a été, sans contredit, la sensation de tout le week-end, avec, entre autres, Lando Norris qui finit deuxième. Écoute, il a... la McLaren fonctionne vraiment bien. Les mises à jour importantes qui ont été amenées pour le Grand Prix d'Autriche ont effectivement bien fonctionné, avec Norris qui a fini quatrième à Spielberg la semaine dernière. Piastri, ça a été un peu plus difficile, mais il n'avait pas les mises à jour. Et là, on arrive à Silverstone. À un moment donné, on avait Norris qui a failli repartir avec la pole position à Silverstone et avec la foule qui allait scander son nom, l'acclamer et on l'aurait entendu. Mais Verstappen est arrivé. Verstappen, you Debbie Downer. Mais quand même, une magnifique course de la part de Norris. Je répète, son départ était exceptionnel. Il aura eu l'opportunité d'être en tête pour 4-5 tours avant que Verstappen ne reprenne son dû. Et je trouve que ça a été quand même une bonne gestion de course du côté de McLaren qui n'ont pas fait de bêtises. Et je mets un peu l'accent sur bêtises parce que lorsque la voiture de sécurité est arrivée pour enlever la voiture de Kevin Magnussen qui avait abandonné sur la droite du Wellington, si je me souviens bien. Oui, c'était à la droite du Wellington. Je pense que McLaren avait mis les pneus durs contre les pneus tendres usés de Hamilton et de Verstappen. Moi, je pensais que c'était peut-être pas une bonne idée. Mais quand j'ai entendu la radio de George Russell dire que la McLaren est rapide, elle est vraiment rapide sur la vitesse, dans les vitesses de pointe, ben là, je me suis dit, ah, peut-être que, ouais, finalement, ils ont une bonne idée parce que, oui, on a vu Hamilton et Norris se battre. C'était une magnifique bataille entre les deux. Et j'ai eu peur qu'on ait un bis repetita de Silverstone 2021 à Copse. Mais ça a été bien effectué par les deux. Norris s'est bien défendu à la relance contre Lewis Hamilton qui voulait aller chercher cette deuxième place. Piastri a fait une course sans faute. Le seul truc aussi, c'est qu'il a été très malchanceux avec la voiture de sécurité virtuelle et la voiture de sécurité du même coup parce que Hamilton s'est arrêté tout de suite après Piastri. Je pense que c'était un tour plus tard et Hamilton a été en mesure de revenir devant la recrue australienne et vraiment, il n'a jamais été inquiété. Hamilton, il a failli même reléguer Norris à la troisième place. Mais vraiment, c'était un week-end excellent. Presque un sans faute de la part de McLaren. Et ces points récoltés font en sorte que l'équipe de Woking, avec leur livrée chrome, qui est magnifique d'ailleurs, McLaren vient de passer Alpine au cinquième rang du classement des constructeurs. McLaren a 59 points. Alpine en a zéro. Avec l'abandon sur problème hydraulique de Esteban Ocon et le zéro pointé de Pierre Gasly en raison du contact avec Lance Stroll, dont d'ailleurs on va en reparler. Donc ça fait en sorte que McLaren, après un début de saison assez difficile, se retrouve maintenant dans la première moitié du tableau. Donc, vraiment, ce qu'on a vu à Silverstone, moi, je pense que c'est peut-être la confirmation comme quoi McLaren semble avoir effacé son mauvais début de saison. Et ça, c'est vraiment impressionnant de la part de l'équipe de Woking. Donc, vraiment, Zach Brown a de quoi être vraiment fier de la performance, autant de Lando Norris que d'Oscar Piastri. Et ça aurait été vraiment magnifique de voir les deux pilotes McLaren sur le podium à Silverstone. Mais écoute, c'est, les circonstances n'ont pas joué en leur faveur avec la voiture de sécurité, surtout pour Piastri. Mais vraiment une performance vraiment exceptionnelle de la part des deux pilotes de la voiture, normalement de couleur papaye. Je pense que c'est même unanime pour dire que tout le monde a été énormément impressionné par la performance de McLaren en fin de semaine. Sinon, du côté de Mercedes, leur fournisseur de moteurs, quand même, Lewis Hamilton va repartir avec une troisième place. Peut-être inattendu dans les circonstances où vraiment la présence de la voiture de sécurité a disons aidé Lewis et même aurait pu finir deuxième s'il avait réussi par exemple son dépassement. Je crois qu'il a été prudent comme il se doit, mais vraiment, et en plus, et ça vient à suite à un vendredi assez difficile pour autant pour l'écurie que pour les deux pilotes. Et on se souvient aussi la semaine dernière où Lewis Hamilton s'est fait rabrouer par Toto Wolff en disant: écoute Lewis, on sait que la voiture est nulle, conduis-la quand même. Et ensuite, bon, il y a eu la pénalité post-course de 10 secondes, mais ça fait un énorme contraste ce dimanche avec ce qui s'est passé au Red Bull Ring. Et avec George Russell qui finit cinquième, c'est quand même encourageant pour Mercedes, surtout qui reste devant Aston Martin, dont on reparlera d'ailleurs. Alors, Russell a fait une bonne course aussi. Je pense que c'était quoi, 28 ou 29, entre 28 et 30 tours sur la gomme tendre. Mon Dieu, que c'était impressionnant. Et oui, les pneus Pirelli, la sélection des pneus Pirelli, je pense que c'était la C3 pour la gomme tendre. Je comprends que c'était des conservateurs, mais Russell a fait le travail, puis ça a aidé. Surtout, son dépassement sur la Ferrari de Charles Leclerc, je crois, c'était de toute beauté. C'est probablement, ou sinon, le plus beau dépassement de la saison. Vraiment, ça a été exceptionnel de sa part. Et j'ai pas eu la chance de le revoir à nouveau après la course. Mais mon Dieu, que j'ai adoré ce dépassement. C'était de toute beauté par l'extérieur de... je pense que c'était Brooklands ou Woodcourt, je ne me souviens plus, où il a scellé le dépassement sur la Ferrari. Mais c'était excellent. Excellent à souhait. Et c'est dommage parce que littéralement, je crois, Mercedes pouvait finir deuxième ou quatrième même si on avait pensé que la stratégie avec les pneus durs chez McLaren n'était pas la bonne. Mais au final, les deux Mercedes se sont fait prendre par... La belle vitesse de pointe des McLaren. Alors vraiment, quand même, je crois que dans les circonstances, Mercedes peut se compter très heureuse du côté de leur résultat, en fait. Alors vraiment, chapeau de la part de chapeau de la part de Mercedes dans ce Grand Prix. Ah ben tiens, On va parler justement de Ferrari. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Abdou, joue l'intro.
It's the history of the
Ferrari.
Eh oui. C'est le retour du... It's the history of the Ferrari. Et vraiment, Ferrari, c'est... Encore fourvoyé dans leur stratégie. 9e et 10e alors qu'ils étaient en bonne partie dans le haut du top 5, top 6 même. Et tout ça pour chuter à la relance. Eux, par contre, tout comme McLaren, Ferrari a posé des pneus durs sur Carlos Sainz, sur la voiture de Carlos Sainz. Et à la relance, il a dit non, je vais pousser, je vais pas suivre vos conseils. Et comme les Anglais disent, it backfired. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Sainz s'est fait bouffer par presque tout le monde, même par son coéquipier. Et ça a été la même chose aussi avec les pneus médiums de Leclerc aussi. Ça n'a pas été fameux. Et pourtant, Leclerc, lui, a commencé avec des pneus tendres aussi, mais je pense que ceux-là étaient usés, si je ne me trompe pas. Et il a été un des premiers pilotes à s'arrêter lors du Grand Prix, alors que Russell, lui, a continué avec pour au moins une quinzaine de tours plus tard, de plus, devrais-je dire. C'est vraiment dommage parce que Ferrari avait quand même relativement une bonne stratégie quand même, mais ouais. En fait, non, je m'excuse. Il était avec les médiums, des pneus médiums neufs. Donc, je reprends ce que j'ai dit. Ça a été une course absolument horrible pour Ferrari. Point à la ligne. Voilà. Donc, I said it. Vraiment un arrêt très tôt. Et le fait que Russell, avec des pneus tendres, neufs, a été capable de durer assez longtemps, là. Moi, je pense qu'il y a tout un département de stratégie à revoir chez Ferrari. Puis c'est pas la première fois qu'on le dit. Alors, que je regarde, c'est ça. Russell s'est arrêté au 28e tour avec ses pneus tendres. Alors que Leclerc s'est arrêté au 18e tour sur les pneus médiums. Ça a carrément ruiné une bonne partie de sa course. Et dû au fait aussi que Russell est revenu avec les médiums neufs pour justement compléter le tout avec ce beau dépassement, ça a fait mal à Ferrari. Et je crois que Carlos Sainz n'est pas un homme heureux. D'ailleurs, je pense qu'il a été, disons, surpris par, il a été vraiment surpris par le comportement de Pierre Gasly, puisque le pilote français, lors des entrevues d'après Grand Prix, est venu voir Sainz qui était en entrevue, et Gasly dit « Ne me tasse pas comme ça », en lien avec un dépassement de Sainz sur Gasly à Cops. Je ne pense pas que ça a été montré à la télévision parce que j'ai vu la vidéo passer sur Twitter. Oui, ça existe encore, Twitter. Et Gasly était absolument en furie envers Sainz. Déjà que les deux ont déjà eu un peu de la difficulté à se réconcilier après les incidents à Montréal lors de la séance de qualification. Donc, ce moment-là, Gasly ne l'a pas apprécié du côté de ce Grand Prix. Donc, mais en général, ça a été... ça a été très difficile. Et en plus, Ferrari va quitter Silverstone avec autant de points que Williams. Ouais. Autant de points que Williams durant ce Grand Prix. Parce que on va se le dire, ça a été une autre belle performance de la part d'Alex Albon. Vraiment, je suis... En fait, non. En fait, je retire ce que j'ai dit. Alex Albon a 4 points avec la 8e place. Donc, Ferrari a marqué moins de points que Williams. Mais le point est que Williams a connu un très bon week-end dans les circonstances. Ben, pas dans les circonstances, un très bon week-end tout court. Oui, ils ont été très rapides lors des séances d'essais libres, mais ce ne sont que des essais libres. En qualification, ils ont livré la marchandise. Je crois que beaucoup quand même s'attendaient à un peu plus de la part d'Albon. Peut-être même voir dans le top 5, mais quand même partir de, je pense que c'était de la 8e place, c'est quand même très respectable dans les circonstances. Alors, je suis vraiment satisfait de la performance des deux Williams, en fait, parce que Logan Sargeant a inscrit son meilleur résultat en Formule 1 avec une 11e place. Alors, force est de constater que Sargeant aussi, tout comme Piastri, commence à s'est bien adapté avec l'évolution de la voiture, parce que même en Autriche, Sargeant avait bien fait. Je pense qu'il avait fini 13e, si ma mémoire est bonne. Et là, aujourd'hui, il termine à deux places de plus. Je crois que Sargeant commence à bien s'adapter avec la voiture et avec Alex Albon qui vraiment fait des merveilles avec cette magnifique Williams et sa belle livrée quand même pour célébrer leur 800e Grand Prix, même si ce n'est pas techniquement le 800e Grand Prix, parce que je crois que c'est leur 799e en raison de l'annulation du Grand Prix d'Émilie-Romagne un peu plus tôt cette année. Mais en Hongrie, ça va être officiellement leur 800e Grand Prix. Bref. Mais tout ça pour dire que Williams a fait une belle course dans les circonstances. Abdou, arrête de dire dans les circonstances. C'était une belle course tout court. Et même, il a fait de beaux dépassements. Il s'est même battu contre Leclerc. Alors, vraiment, il a été très, très, très bon, Albon. Et Sargeant mérite aussi sa part de mérite aussi dans le bon résultat de Williams. Et en plus de ça, avec les 4 points de Albon, Williams se retrouve maintenant 7e au classement des constructeurs, à égalité avec Haas, mais Albon a eu aussi un bon résultat au cours de la saison, ben, la 7e place à Montréal. Donc, ce qui fait en sorte que Williams monte devant Haas, qui doit, et je l'avais mentionné dans le podcast de la semaine, lorsque j'ai parlé justement de Haas, c'était exactement ce dont je craignais pour l'équipe américaine, que Williams continue sa progression, et la prophétie s'est réalisée. Williams est maintenant devant Haas, même s'ils ont le même nombre de points, mais Williams est devant Haas, et ça, c'est quand même beaucoup d'argent qui va rentrer du côté de Williams si la tendance se maintient d'ici la fin de la saison. Alors, vraiment très impressionné de la part de Williams. Si Williams progresse, j'ai l'impression qu'Aston Martin, dont les usines se trouvent à quelques mètres du circuit de Silverstone, ça ne va pas très bien. Oui, Fernando Alonso a quand même fini septième, à résister aux attaques de Albon, Leclerc et Sainz derrière, mais je pense que cette voiture n'était pas adaptée pour le circuit de Silverstone. Alonso a fait ce qu'il a pu. C'est quand même des points importants, même si Mercedes commence à prendre le large au championnat des constructeurs et que Ferrari a fait du Ferrari. Aston Martin va voir, disons, le verre à moitié plein. Il y a eu des points, mais je crois que ça aurait pu être mieux. Et je dois dire quand même que la Aston Martin, je m'attendais un peu plus en fin de semaine. Ça a été quand même bien en Autriche. À Silverstone, ça a été un peu plus difficile, surtout que c'est une course littéralement à domicile pour Aston Martin. Mais Alonso a quand même rapporté des points. Et Lance Stroll, lui, s'est procuré des points, mais des points de pénalité. Il en a maintenant 7 sur 12. Pourquoi? Parce qu'il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour avoir causé une collision à l'endroit de Pierre Gasly. Et il la mérite. Et il mérite amplement la pénalité. Il n'y a pas de... J'ai du mal à croire, à trouver une défense à l'endroit de Stroll parce que c'était un move vraiment inutile de la part du pilote québécois. Sortir à club et de revenir de tasser Gasly, même si quelques tours auparavant, Stroll s'est fait pousser par Gasly, dépassement à l'extérieur de Stowe, littéralement à l'extérieur de la piste. Si je me trompe pas, je pense que Stroll a reçu un avertissement pour ça. Ben, il n'y a pas eu d'action. Mais pour revenir à la collision de Stroll, je veux dire, je lis le document. Qui dit que Gasly était à l'extérieur, était déjà devant au virage 16 lorsque Stroll a tenté le dépassement. Il avait la ligne de course, Gasly. Et toujours dans le document, il dit que Stroll a tenté de garder la ligne, mais a été obligé de sortir hors piste. Et il y avait aussi un vibreur saucisse, mais je n'excuse en aucun cas le move de Stroll parce qu'il l'a complètement mérité. Il est revenu sur le circuit directement causant une collision avec Gasly. Et c'est ça que je disais hier à des personnes dans le tailgate du soccer, du match du CF Montréal. Un des gros problèmes de Stroll, non seulement il y a les qualifications, son manque de vision périphérique, c'est aussi son manque de constance. Parce que la semaine dernière, il a fait probablement sa meilleure performance de la saison, tout au long de la saison, avec évidemment Bahreïn. Mais là, il nous a servi une performance décevante. OK, moins pire que Monaco. Et c'est heureusement bien moins pire que Monaco. Mais c'était une performance décevante. Et il finit 14e. Donc, c'est dommage pour Stroll. Parce que je pensais qu'il allait avoir un momentum après le Grand Prix d'Autriche. Et là, on revient encore une fois à des bonnes vieilles habitudes. Alors... J'ai un peu du mal à défendre Stroll sur cette action. Il mérite amplement la pénalité. Mais peut-être que dans 2 semaines, en Hongrie, peut-être qu'on va revoir les Aston Martin qu'on a connus au cours des premières courses de la saison. Ça reste à voir, parce que c'est sûr que ce n'est pas un circuit... Le Hungaroring à Budapest n'est pas un circuit de vitesse. Je pense que ça va être un circuit qui va bien où ils vont être plus en mesure de bien performer. Même chose pour Mercedes. Mais je pense qu'Aston Martin pourra avoir le dessus sur Mercedes, tout dépendamment de comment... s'il va avoir d'autres évolutions, des mises à jour sur des pièces de la voiture. Sinon, mention honorable. Moi, je vais donner une mention honorable à Valtteri Bottas. Il a été disqualifié parce que Alfa Romeo, lors des qualifications, n'a pas fourni le 1 litre nécessaire d'essence pour auprès des commissaires pour des inspections. Il a manqué d'essence lors de à la fin de la Q1. Il a été disqualifié. Il est parti en fond de gris. Il est parti de la ligne des puits. Il finit 12e. Et quand même, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup d'Alfa Romeo, mais il faut que je lève mon chapeau à Bottas pour cette course. Certes anonyme, mais assez intéressante. Et quand même, Zhou Guanyu qui ont, donc avec un total, Alfa Romeo a quand même gagné 10 places au total, les deux pilotes lors de ce Grand Prix. Ça a été une bonne performance du côté de Bottas. Zhou Guanyu aussi en retrait, c'était pas mauvais, mais pas fameux non plus aussi. Quand même, mais Alfa Romeo aussi s'est fait dépasser par Williams au classement des constructeurs. Parlant de performance fantomatique, avez-vous vraiment vu les AlphaTauri au cours de la fin de semaine? Parce que pour vrai, ça a été un week-end anonyme. Ça a été un week-end complètement anonyme de la part autant de Yuki Tsunoda que de Nyck de Vries, dont certains, on parle probablement qu'il a 4 courses, et ça inclut aussi le Grand Prix d'Autriche, pour sauver son volant. Mais la Alpha Tauri n'était juste pas là tout le week-end. Du côté de Haas, ben, Nico Hülkenberg, sa course a été, disons... ruiné avec le contact avec la Red Bull de Sergio Perez lorsque ce dernier a tenté un dépassement dans les premiers virages, et le contact a fait en sorte que Hülkenberg a perdu un bout de son aileron avant, a été obligé de s'arrêter. Donc fini 13e quand même, mais ça n'a pas été un Grand Prix fameux. Magnussen aussi a perdu sa voiture a pris feu, le moteur a pris feu aussi, causant l'arrivée de la voiture de sécurité virtuelle et ensuite la voiture de sécurité. Mais cette course was a pain in the ass. There I said it. Et aussi, Alpine, au final aussi, des gros perdants parce qu'ils voient McLaren qui a fait une course, qui a fait un week-end énorme, je pense que c'était quoi, 30 points? 18 plus 12, c'est ça, c'est 30 points. Donc, c'est 30 points contre un 0 pointé pour Alpine. Abandon sur problème mécanique, donc un problème hydraulique pour Esteban Ocon. Et Gasly qui a abandonné à la suite du contact avec Lance Stroll, ce qui a endommagé sa suspension. Donc, Alpine, là-dessus, ça a été dommage. Des abandons qui ne sont vraiment pas liés aux pilotes. Mais vraiment, Laurent Rossi doit être en beau fusil de voir McLaren les dépasser au classement des constructeurs. Donc, vraiment dommage pour l'écurie française. Avant de compléter l'épisode, je vais vous donner le classement des pilotes après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Max Verstappen contre 255 points et avec un écart de 99 points sur Sergio Perez. Fernando Alonso est troisième avec 137 points. Lewis Hamilton est quatrième avec 121 points. Carlos Sainz est cinquième. George Russell, 6e, 83 et 82 points respectivement. Charles Leclerc est 7e avec 74 points. Lance Stroll est 8e avec 44 points. Lando Norris est 9e avec 42 points et Esteban Ocon a le même nombre de points que son numéro de course, c'est-à-dire 31. Fallait que je la sorte, celle-là. Et au classement des constructeurs, Red Bull à 411 points, Mercedes à 203 points, Aston Martin en a 181, 157 pour Ferrari, McLaren est maintenant 5e avec 59 points, c'est 12 de plus qu'Alpine qui en a 47 au 6e rang. Williams et Haas sont respectivement 7e et 8e avec 11 points chacun. Alfa Romeo est 9e avec 9 points et Alfa Tauri est 10e avec 2 points grâce au style de 2 dixièmes places de Yuki Tsunoda. C'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. Alors, on a notre prochain rendez-vous qui est en fait l'épisode hebdomadaire qui sera disponible ce jeudi sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcast et autres plateformes où vous écoutez vos balados en temps normal. On est aussi disponible sur Facebook, Twitter, Instagram et maintenant sur Threads, la nouvelle plateforme de Meta, la plateforme de l'heure. Donc, si vous voulez nous rejoindre, on est là, tout disponible. @lebulletingGP en un mot. Donc, Facebook, Twitter, Threads et Instagram, on est là. Et aussi, ben, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook La Monoplace, autant sur Facebook que sur Threads. @la.monoplace. Et le prochain épisode de l'après-course aura lieu après le Grand Prix de Hongrie, donc dans 2 semaines. Sur ce, mon nom est Abdou Sal. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser nos impressions de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. On se retrouve jeudi pour l'épisode hebdomadaire, le numéro 143. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. Faites attention à vous. Et on se retrouve une prochaine fois.